Il est midi sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne, bienvenue si vous nous rejoignez. Et chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous annoncer le 5e épisode du Printemps des Poètes Confinés. Grand merci encore à tous les participants à ce Printemps des Poètes Confinés, 5e émission, 5e heure donc de poésie, c'est pas rien. Et aujourd'hui, nous aurons le grand plaisir d'entendre Assia Lazare, Valentin, Monsieur Zurg, Yopo, Guillaume Virentin, Béatrice Renondino, Chef de Claire, et Audrey Léauté. Du slam, de la poésie et une nouvelle retrouvée sur le podcast. Les détails des textes qui ont été lus dans cette émission, vous pouvez évidemment continuer à nous envoyer des lectures de poèmes, des slams et du rap, ou même des chansons. Pour ce faire, il suffit de vous enregistrer, même avec un téléphone portable, et de m'envoyer le fichier à melissa@radiocampustour.com. Sinon, vous pouvez aussi nous envoyer le texte et nous ferons un plaisir de le lire. Place maintenant à la poésie.
Voyager en torrent, contre vents et marées. Remonter le courant et claquer le pavé. Éclabousser la ville, se faire cristal de nuit. Sursaut de brindilles et éclat d'insomnie. Voir tomber le sens, souffler l'espoir et le verre, et puis croiser son errance au bout d'un désert. Voyager en cascade, effleurer le fond, laisser tomber les cadrans et dérégler le son. Laver la terre de ses tombes, se faire éclaboussure de vie, sur l'embrun des poètes, fouler la cendre et la pluie. Et puis s'habiller au parfum des tempêtes et des éclaircies. S'habiller au parfum des tempêtes et des éclaircies. Chercher entre les feuilles, attiser l'alphabet, accrocher au seuil des éclats de rareté. Voyager en torrent, voyager en cascade, voyager en ruisseau, n'être plus qu'un arbre, un souvenir nouveau. Voyager en ruisseau, au cœur du monde. Laisser éclore des fragments de roseaux, boire la lune et son ombre. Se faire poussière de nuit, parfum de comète. Fondre dans le silence, voir marcher le temps. courir avec les arbres et les pierres, et puis croiser son enfance. Et se taire.
Les deux averses. Un jour de pluie au port d'Anvers, une femme avait eu l'idée de mettre sa jupe à l'envers pour se garantir de l'ondée. Et deux bateliers de Lescaut voyaient s'ouvrir comme une amande au milieu d'un coquelicot son beau con de mer flamande.
« Sais-tu, dirent-ils, viens auprès, ça est un beau Peter de Krupp, Godverdamme ça, pour nos beaux prés, pour une fouée, un coste en poupe. »
Lors, elle, en silence, levant son cul que l'averse cravache, leur pissonnait. Non par devant, mais à la manière des vaches. Et leur cri en courant, tandis qu'ils gémissaient des potes nôtres, le bon Dieu de mon paradis sait pleuvoir aussi bien que l'autre.
Ce soir, un meringuier rempli de vie s'élance sur cette scène qui te ravit. Et toi qui es inspiré, tu découvres le soleil du monde qui te ravit. Les artistes de la rue sont très habiles, et soudain, tout un paysage, des eaux turquoises jamais immobiles, des pirogues qui s'ancrent à la plage. L'île qui s'habille du crépuscule paraît comme un esprit qui ressurgit, et ce soir, toutes les ombres ondulent sur un air de nostalgie. Tu l'entends cette rumba qui s'enflamme, toi mélomane qui nous clame un slam, tu nous racontes Cuba l'authentique, en chantant la mariposa symbolique. Car toi, l'enfant du pays, tu vois les lames comme des perles blanches dans la mer. Tu voudrais que rien ne soit éphémère. Ce soir, pour toi, poète, on compose un refrain afro-cubain estival. L'hiver nous annonce une longue pause. Ici ou là, des flâneurs vagabondes en jouant sur une musique du monde. Tu l'entends cette salsa qui s'enflamme, toi, mélomane qui nous clame un slam. Tu nous racontes Cuba l'authentique en cherchant la mariposa symbolique. On ressent battre cette effervescence. Minuit sonne sur l'île de mystère et l'on peut voir la lune si intense, ce réverbère du ciel qui nous éclaire. Car toi, l'enfant du pays, tu vois les vagues comme des perles blanches dans la mer. Tu voudrais que tout ne soit qu'éphémère.
Je slamerai le nouveau monde, né de la zone et de l'ordure. En ce temps-là, vos belles actions passaient toujours par l'écriture. Vous vous gaviez de projections, de projets sérieux, de futur, pendant que l'ordre et la répression nous alignaient contre les murs. Vous ronronniez dans le vieux monde, dans l'opposition objective, respectant la règle et la ronde dans vos manchettes maladives. Ça sentait le médicament, la frustration et le soumis. Ça puait déjà l'électron, le temps qui passe, à crédit. Des technocrates maigrichons vous prédisaient des jours meilleurs, des aurores de l'expansion à la sournoise nuit des chômeurs. Vous faisiez du lard aux ceintures, les pancartes au bout de vos bras mous. Vous faisiez des cercles dans l'ordure. Vous vous traîniez à genoux. Les barbares, qui montraient leurs crocs aux barrières des périphériques, ricanaient, remplaçant vos mots par des cris de guerriers celtiques. Vous aviez froid dans le dos, bien qu'expliquant ce phénomène, vous essayiez de rentrer tôt, détestant les milices urbaines. Vous nous regardiez en ce temps inventer une autre poétique, faite de violence et de sang, d'ignorance et de prophétique. Votre raison vous pesait lourd dans vos masochistes partouzes, dans vos dérisoires amours, votre révolte et vos ventouses. La petite gauche vivotait, frileuse comme une alouette. Vos bars, vos fêtes, vos congrès, vos slameurs, vos peintres, vos poètes. Votre raison, votre droiture, vos illusions, vos habitudes. Votre soumission, votre culture, vos ambitions, vos certitudes. Cette lucidité bidon qui remplaçait si bien les tripes était cynique et sans passion et militante et castratrice. Elle vous bloquait le creux des reins comme un calcul diabétique et vous laissait sur votre faim de bien nourri et d'asthmatique. Nous rêvons d'une autre planète en ce futur, t'en souviens-tu? Nous tirons des plans à facettes vers des comètes disparues. Nous installons des mines d'or sur des podiums itinérants et nous jouons toujours très fort du slam et du vent Nous pressentons une cassure, une crevasse nette et sanglante, une balafre dans l'azur, un cran d'arrêt dans le silence, une fissure dans le certain, une embolie dans la finance, un détonateur dans la main, un embarras dans la nuance. Nous vivons au ras des pavés, n'ayant jamais connu la plage. Et jamais le roi des étés ne s'est inscrit au paysage. Nous avons la haine au plus profond, une haine fondamentale de la hiérarchie et des cons, du quotidien et du fatal.
Alors voici un texte que j'ai intitulé « La ville lumière » par Assia Lazar. Les lumières des tours s'allument, s'éteignent, tour à tour du ciel nocturne qu'envient les étoiles. Les réverbères voilés de brume enveloppent la cité d'un nuage flou où flotte un passant qui promène son chien frileux. Une ombre, elle un taxi, image furtive d'un roman noir. Les phares des voitures surgissent puis s'évanouissent, guirlandes clignotantes sur les voies pressées. Sous les ponts, l'eau désinvolte revêt sa robe de paillettes et charme les vagabonds désabusés. La nuit s'éveille et la ville, harassée, quitte son tablier. Après le labeur, l'oubli. Les étoiles, humbles, voyagent vers les habitations animées. Le cinéma invite à admirer les siennes sur l'écran des possibles, tandis que les danseurs secouent leur chagrin sur les pistes balayées par les néons fugaces. Quel joli tableau que ces amoureux qui dînent derrière la vitre embuée à la lueur d'une sage chandelle. Et moi j'erre, solitaire, et mon cœur bat au rythme de la ville-lumière.
Charles Baudelaire, une charogne. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlant et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe, comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons, de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps enflé d'un souffle vague vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine, qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
Ils ne peuvent plus les gestes magiques qui accrochent des étincelles aux ailes des oiseaux électriques, porteurs de prières pour là-haut, pour faire entendre la pluie et tomber le tonnerre nouveau qui fécondera la terre. Tristes porteurs de prières aux ailes chargées d'absence, ne nous envoient plus les éclairs de sens qui poussent nos vies dans la lumière. Tristes oiseaux en colère de nous, débiles manchots, affolés et fous, ils sèment dans les airs leurs propres prières en colère de nous, gardiens de l'écorce, et l'écorce tombe à genoux. Ils sifflent dans leur bec les visions de l'avenir. Ils portent sur leurs ailes la chute de notre empire, empire de rien, empire de tout ce qu'il ne fallait pas faire jusqu'à même détruire la terre, empire d'hommes devenus fous. Nos chères nations ne sont que pays sinistrés. Où sont les chanteurs de vie, les danseurs de savoir? Où sont les conteurs de passé, les porteurs de mémoire? Où sont les tisseurs de liens d'entre les mondes? Où sont les sondeurs de réalité? Où sont les peigneurs de corps? Où sont les guerriers? Où sont les déesses? Où sont les dieux, les cérémonies? Où est la vie? Où est le feu? Où sont les marcheurs de terre, les porteurs de lune et de soleil, les souffleurs de nuages et de vent? Où sont les hommes en éveil? Et où sont les enfants? Regardez autour de vous. Où sont les enfants? Nous voulions être seuls. Voilà qui est fait. Nous, campés dans notre orgueil, nous sommes séparés de tout ce qui est, même de nos enfants, parce que nous nous sommes crus les plus forts, les plus grands, plus forts que la terre en colère, plus forts que le ciel rugissant, conneries ! Nous voulions être seuls à briller avec au cœur la double folie de tout contrôler. Mais pauvres hommes, quelle erreur ! Nous nous sommes simplement éteints. Nous avons coupé nos mains, rompu les liens. Maintenant, le ciel et la terre. Maintenant, les peuples sont en colère. Peuple des arbres, des oiseaux et du vent. Peuple des loups, des baleines, des enfants. Seuls et absurdement fiers. Alors les déesses, les dieux, les esprits, les joueurs de flûte, les danseurs de vie, nos enfants tous sont en colère et préparent dans leurs prières la chute de notre empire.
La vie éternelle. Un texte de Jeff de Clare. La vie éternelle. Tu es en moi. Déjà, tu me prends, tu me ronges et tu m'emmènes. Tu me dis que la vue sera belle et la vie éternelle. Tu es en moi. Déjà, je te sens, je connais ta chaleur, ton sourire, celui du meilleur, celui du pire, cette flamme éternelle. Tu es en moi. Déjà je te sais, pourtant je ne t'attendais plus, toi l'absent, l'absolu, l'âge d'or éternel. Tu es en moi, déjà tu me tues, tu me voiles et tu m'entraînes, et tu me dis que la vue sera belle et la vie éternelle. Orléans, le 23 mars 2020. Un texte de Jeff de Clare.
Dis-moi pourquoi les étoiles ont-elles cette couleur ce soir? Elles nous tournent le dos et nous cachent leurs yeux. Dis, tu voulais nous ouvrir à d'autres planètes, mais ce soir tes yeux se noient dans le ciel. Ils nous tournent le dos et replient leurs ailes. Dis-moi, tu parlais d'avenir, des idées plein le cœur, l'amour au coin des lèvres et dans les mains les couleurs d'un bouquet d'étincelles. Dis-moi pourquoi le feu de tes étoiles chancelle. Est-elle morte ta chandelle? Celle qui éclairait dans le noir l'inconnu à conquérir. Tu parlais d'avenir sur le dos des comètes. mais tu tournes ton sourire et tu penches la tête, les yeux en coin et les mains tristes. Pourquoi les étoiles ont-elles cette couleur ce soir? La couleur du vide, du temps qui ne bat plus. Crois-tu qu'elles savent qu'on ne les voit plus? Crois-tu qu'elles devinent? Crois-tu qu'elles sentent nos espoirs disparus? Le péril de ce monde qui fait fuir la vie? Nos rêves endormis, enfermés? Enfermés dans nos têtes, enfermés? Enfermés dans les heures qui se comptent à la seconde d'une journée qui passe, toujours en retard, toujours en retard. Et les murs tombent sur nous, enfermés dans nos têtes, les yeux renversés pour ne pas voir la couleur du ciel et l'appel des étoiles. Tu crois qu'elles sentent? Que si nos yeux se noient dans le ciel en coin, c'est qu'enfermés, ils tentent de s'échapper de nos têtes pour rappeler depuis d'autres planètes la couleur des étoiles. Tu me disais, t'inquiète pas, on passera à travers des murs, des prisons, le béton et la chair. Et que même à tâtons au-dessus des barrières, on construira des ponts pour aller voir la mer. Alors viens, viens. Viens et on se créera nos terres nouvelles, à foison d'horizon. On lèvera le voile qui nous cache le ciel. Au couteau de nos rêves, dans le vrai noir de la nuit, on coupera le voile qui nous gâche la vie. On dansera au bal des lumières qui scintillent et on accrochera à nos voiles mille fleurs qui brillent de la couleur des étoiles. On suivra les rivières, toujours au printemps, les pieds dans le sable et le visage au vent, sur le pont d'un bateau ou au bord du ruisseau. Quand le soir sera tombé dans le vrai noir de la nuit, on ouvrira les bras et on se remplira de la couleur des étoiles.
Pourtant, je m'élève. Un texte de Maya Angelou, traduit par Olivier Favier. Vous pouvez me rabaisser pour l'histoire, avec vos mensonges amers et tordus. Vous pouvez me traîner dans la boue, mais comme la poussière, pourtant, je m'élève. Mon insolence vous met-elle en colère?
Pourquoi vous drapez-vous de tristesse de me voir marcher comme si j'avais des puits de pétrole pompant dans mon salon? Comme de simples lunes et de simples soleils, avec la constance des marées, comme de simples espoirs jaillissants. Pourtant, je m'élève. Voulez-vous me voir briser, la tête et les yeux baissés, les épaules tombantes comme des larmes, affaiblies par mes sanglots émus? Est-ce mon dédain qui vous blesse? Ne prenez-vous pas mal de me voir rire comme si j'avais des mines d'or creusant dans mon jardin? Vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper avec vos yeux, me tuer de toute votre haine, mais comme l'air, pourtant, je m'élève. Ma sensualité vous met-elle en colère? Cela vous surprend-il vraiment de me voir danser comme si j'avais des diamants à la jointure de mes cuisses? Hors des baraques, des hontes de l'histoire, je m'élève. Surgissant d'un passé enraciné de douleur, je m'élève. Je suis un océan noir, bondissant et large. Jaillissant et gonflant, je porte la marée. En laissant derrière moi des nuits de terreur et de peur, je m'élève. Vers une aube merveilleusement claire, je m'élève. Apportant les présents que mes ancêtres m'ont donnés, je suis le rêve et l'espérance de l'esclave. Je m'élève. Je m'élève. Je m'élève.
Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle de l'un de mes auteurs préférés qui se nomme Ken Liu. Et cette nouvelle est extraite de son dernier recueil, Le Jardin de Poussière, aux éditions Le Bélial.
Il s'agit de Lura,
dit Freddy.
D'étudier sous l'égide du professeur Thaddeus Clovis, le directeur de thèse, mon directeur de thèse, il a créé la xénoarchéologie lurienne. Tu pourrais être là le jour où on fera une découverte qui change le monde.
Il abordait le sujet comme une décision arrêtée, mais Jane n'était pas tout à fait convaincue.
Allez,
ajouta-t-il avant qu'elle puisse discuter.
Je veux que tu viennes, tu vas adorer.
Comme tout à chacun, Jane avait vu depuis son enfance maintes images de Lura, la mer de dunes, les ruines austères décapées par les vents, ses grandes tours en spirale tendues vers le ciel comme les doigts d'un homme s'abîmant dans les sables mouvants, évoquaient les chagrins et les regrets emblématiques d'un paradis perdu. Mais elle n'était pas de ceux qui dévoraient les manuels sur la spiritualité des Luriens ou regardaient les nombreuses émissions sur leur mystère. Des astronautes Luriens sont-ils venus sur Terre bâtir les pyramides Maya? La réponse après la pause. Nantie depuis peu de son diplôme de comptabilité, elle avait reçu une lettre qui lui offrait un stage convoité au siège new-yorkais d'une firme spécialisée où elle validerait une qualification d'expert comptable. Leur soirée commençait par l'annonce de Freddy, et voilà qu'il lui demandait de mettre sa vie en suspens pendant 12 mois. Bénéficierait-elle d'une si belle opportunité à son retour? L'idée de passer un an loin de Freddy n'avait rien de très séduisant non plus. Elle avait vu trop de relations à distance se déliter pour s'imaginer que leur couple constituerait une exception. L'amour exigeait des sacrifices, pas vrai? Mais pourquoi était-ce toujours à la femme de consentir? Sur le chemin du retour, ils croisèrent un prédicateur de rue qui déclamait une citation de la saga de Lura. Arunsun et Bilus parlèrent de concert. De force et de valeur égales, nous jurons tous deux de vivre cette aventure ensemble. Avec les ans, le fardeau de la vie pesait sur les hommes. Arun, en sa qualité d'aîné, décida d'affronter le pluripotent aux portes de platine. Bilus hésitait, ce n'est pas le moment. Ignorant son ami, Arunsun alla défier le pluripotent. « Non, dit ce dernier. Bilus doit se tenir à tes côtés, ou il ne saurait y avoir de duel. Arunsun se désolait quand Bilus surgit et tendit les membres. Viens, s'il faut combattre le pluripotent, nous le combattrons ensemble.
Tu vois, c'est un signe du destin,
déclara Freddy. Jane leva les yeux au ciel, mais sourit. Ses recherches lui apprirent qu'à Xef, la plus grande des colonies humaines de Lura, une année d'expérience, moins que dans la plupart des autres juridictions, suffisait à obtenir un diplôme d'expert comptable reconnu sur Terre. Marché conclu. Elle prendrait de l'avance sur son plan de carrière et passerait un an sur une planète étrangère en compagnie de Freddy. Il ne restait qu'à trouver le bon poste à Xef. Quand la navette de l'hypernef approcha de Xef, Jane colla son nez au hublot durant le survol des ruines à l'ouest de la ville. Les pierres, recouvertes de sable, y formaient des cercles concentriques, des croissants, des carrés. La grande tour, dont la spirale s'élevait 1000 mètres au-dessus du désert, dominait le tout petit véhicule, jetant deux ombres longues face au soleil jumeau. Elles évoquaient les aiguilles d'une gigantesque pendule qui aurait décompté la mort thermique de l'univers. D'autres tours spiralées plus petites reproduisaient la scène en miniature, noyaux de leurs propres horloges. Des trous ovales perçaient les tours à différentes hauteurs et sous divers angles. Le vent soufflant au travers produisait des notes soutenues qui changeaient selon la direction et sa force. Musique éthérée qui évoquait le chant des baleines ou un orgue joué par Dieu. Jane sentait la structure même de la navette vibrer en accord avec la fameuse « chanson des vents de Lura ». Cette planète, dont la gravité atténuée lui donnait l'impression de flotter sur les ondes de la mélodie légère. Le camp de base de l'expédition se situait à l'est de Xef, à 4 heures par glisseur. Une fois par semaine, Freddy disposait d'un jour de congé à passer avec Jane en ville. Le climat diurne à Xef était agréable, même si les humains le trouvaient un peu chaud. Ils visitèrent, surtout pour la clim, les temples voyants et les pièges à touristes aussi luriens que kitsch. L'église, Notre-Dame de Xef, comportait une réplique animatronique d'un lurien vivant. L'artiste s'était inspiré des esquisses initiales de la première expédition. Le résultat évoquait une araignée de cristal doré, dotée de 10 pattes à triple articulation, qui surmontait un petit corps de forme d'hécagone, d'où pendait un sac parcheminé, translucide, dans lequel les lueurs clignotantes dessinaient d'étranges motifs. Entourée d'un voile perpétuel par une machine à brouillard, elle soulevait ses pattes à intervalles réguliers. Les pèlerins qui s'agenouillaient devant l'effigie pour allumer chandelles votives et bâtonnets d'encens priaient les yeux fermés. Les enceintes encastrées dans la statue citaient la saga de Lura d'une voix mécanique dissonante.
« Réjouissez-vous, le fardeau des pauvres se voit diminuer pour chaque enfant qui naît, mais tous ceux qui vivent dans l'abondance au point que leur richesse surpasse le mont Kij ne ressentiront pas cet allègrement, car ils possèdent trop. »
Ces forains devraient suivre les articles scientifiques,
lui murmura Freddy, partagé entre l'irritation, l'amusement et l'horreur.
On sait depuis des années que les ossements luriens ne formaient pas des exosquelettes, mais un squelette intérieur. Les gens se font avoir par n'importe quoi.
Jane trouvait ce temple gnangnan, mais déplorait qu'on tourne en dérision la foi des autres, même si, pour sa part, les religions la laissaient de marbre. Elle garda le silence par respect.
Arunson se prépara au combat. Tu dois t'affranchir. La porte de platine décréta l'autorité. Si jamais tu y survis, tu feras alors face au miroir d'or. Et si tu survis à cela, c'est moi que tu affronteras dans la salle d'argent.
L'extrait de la saga de Lura m'échappe,
avoua-t-elle par la suite à Freddy.
J'ai été forcée d'en lire des extraits pour mon cours de littérature au lycée. Elle devrait t'inspirer, à ce qu'il semble, mais au fond, elle n'exprime rien, sinon des platitudes.
C'est peut-être une constance culturelle. La littérature édifiante ne varie guère d'un bout à l'autre de la galaxie.
Tu as une idée de la manière dont on l'a découverte ?
Ouais, l'une des plus grosses trouvailles du professeur Clovis au cours de la première expédition. Aucun matériau comparable au papier n'a survécu 1 million d'années, bien entendu, de sorte qu'ils sont tombés sur des inscriptions et des signes sculptés dans un bâtiment en pierre, des trucs courts, peu révélateurs. Puis, dans une autre excavation, il a trouvé une série de plaques de platine avec des écrits gravés, mais à l'envers.
À l'envers ?
Ouais, destiné à l'impression sans doute. Il y avait beaucoup d'abîmés, mais on a quand même pu récupérer la majorité du texte. Plus tard, le professeur Clovis a réussi à en traduire un peu. Il s'agissait d'un récit d'une longue histoire composée de strophes à la forme bien définie. L'œuvre avait connu de nombreuses variations, ou été révisée maintes fois. Sur les plaques, des versions différentes de chaque strophe figuraient en plus petits caractères après la principale.
Une épopée orale couchée par écrit ?
C'est l'opinion du professeur Clovis. Il l'a baptisée « La saga de Lura », et il a publié la traduction des fragments dès le retour de l'expédition sur Terre. Ils ont fasciné le public et lancé la xénoarchéologie lurienne, mais aussi inspiré ses cultes et ses maboules qui assignent la spiritualité à ces textes.
L'entretien de Jane avec Monsieur Morris, conseiller principal de la Direction Générale des Finances de Xef, dura en tout 30 secondes. Elle n'eut même pas le loisir d'exposer ses compétences alors qu'elle y était pourtant préparée.
Ravi de vous voir, quand pouvez-vous commencer ?
Elle obtient son propre bureau et sa propre secrétaire. Dès qu'elle entreprit d'étudier les dossiers empilés sur la table de travail, elle comprit pourquoi DGFX avait tant besoin d'aide. Pour un soi-disant trou perdu, Xef avait des problèmes de taxation d'une complexité surprenante. Comme les autres colonies de la planète, elle tirait la plupart de ses revenus du flot de touristes et de pèlerins venus de tout monde connu pour bader et prier face aux ruines luriennes. Bien qu'un siècle d'exploration spatiale ait permis de découvrir la vie sur bien d'autres planètes, Lura restait la seule à avoir manifestement abrité une culture non humaine sophistiquée. Ses hautes tours de pierre en spirale avaient précédé les pyramides d'Égypte, les peintures rupestres de Lascaux et même l'existence des Néandertaliens. Mais les Luriens, avec l'ensemble des espèces autochtones, avaient disparu depuis 1 million d'années dans une catastrophe où l'hypothèse la plus récente voyait une émission de radiation mortelle par une supernova avoisinante. Les explorateurs débarqués de la toute première hypernef terrienne avaient découvert des ruines muettes, les restes squelettiques des Luriens, délicates espèces à la symétrie radiale d'une taille de 2 mètres dotées de 10 membres et d'os en silicate, et des micro-organismes qui vivaient soit au fond de l'océan, soit dans les entrailles de la Terre. Dès l'origine, des cultes et des apôtres du développement personnel firent des ruines de Lura la base de leur système de croyance. Leur nombre se retrouva multiplié par 100 à la suite de la première expédition de Clovis et de la parution de la saga de Lura. Les religions acquirent des terrains dans Xeph et réclamèrent des exemptions fiscales douteuses pour leurs biens immobiliers, pensions, restaurants, banques, parcs d'attractions, bordels et autres. Les propriétaires des entreprises commerciales crièrent à la concurrence déloyale et se piquèrent d'évasion fiscale à leur façon, souvent par le biais de collaborations avec des cultes. Depuis des années, la DGFX s'efforçait de remédier aux failles, de remettre à jour sans répit ses règlements et de préserver le fisc des assauts en règle des comptables et des avocats spécialisés engagés par les églises, aussi bien que par les contribuables sur d'autres planètes. Il lui fallait toute l'aide possible. Jeanne en redemandait. Les yeux des personnes qu'elle fréquentait, dont Freddy, devenait vitreux dès que le code des impôts intervenait dans la discussion. Mais pour Jane, ce règlement représentait compromis entre les désirs, les rêves, les idéaux et les instincts. Les taux, les crédits, les déductions et les pénalités encourageaient des activités et en décourageaient d'autres. Il dépendait d'eux que des gens achètent une maison ou non, se marient ou non, rejoignent une église ou non, aient des enfants ou non. Bref, la politique dans ce qu'elle avait de plus pur, de plus pragmatique. En tant que comptable, Jane estimait que comprendre le droit fiscal d'une culture donnée permettait d'en élucider le fonctionnement. Lors de la visite suivante de Freddy, ils optèrent pour une marche parmi les tours en spirale. Ils avaient apporté une tenue réfrigérante supplémentaire pour Jane. Sans passer le temps d'une journée entière dans le désert sous les soleils jumeaux équivalait à un suicide. Touristes et pèlerins rejoignaient d'ordinaire les sites par bus ou taxi climatisé, mais il leur était défendu d'approcher davantage des tours afin d'éviter les dégâts au bâtiment. Mais en tant que membre de l'expédition, Freddy détenait un permis pour les zones interdites et les gardes autorisèrent Jane à l'accompagner lorsqu'elle leur refila quelques billets. Elle se prit à espérer qu'il déclarerait le pot de vin, puis elle étouffa un rire d'autodérision. Habitant Xeph depuis 1 mois, elle s'était habituée peu à peu aux silhouettes de ces hautes spirales sur l'horizon. De près, toutefois, la grande tour offrait une perspective nouvelle. Depuis sa base de 200 mètres de diamètre, ces énormes blocs de granit cimentés les uns aux autres s'élevaient dans le bleu en une hélice gracieuse qui paraissait défier la pesanteur.
Mais comment fait cette chose pour ne pas tomber ?
S'enquit-elle. Jane sentait le vertige la gagner à mesure que son regard s'élevait le long de la tour et que les trous et les tunnels creusés aux abords du sommet changeaient en une dentelle de pierre qui finissait par s'unir aux nuages.
Un mélange d'ingénierie inspirée et d'illusionnisme,
répondit Freddy en haussant le ton pour se faire entendre au dépit des chansons des vents.
Ils ont utilisé des contrepoids et mis en scène les ombres de manière à ce qu'elles paraissent moins massives, moins substantielles qu'en réalité. Je peux t'assurer de sa stabilité. Elle tient debout depuis 1 million d'années.
Il tendit à Jane des bouchons d'oreilles qui leur serviraient aussi de système de communication sans fil. Reliés par un câble, ils entreprirent l'ascension, chacun montant à son tour, assurer le couple qu'ils formaient. Les tenues réfrigérantes fonctionnaient bien, de sorte que Jane apprécia l'effort qui les menait peu à peu loin au-dessus des ruines et du désert alentour. Munis des bouchons d'oreilles, ils n'entendaient plus la chanson des vents, qui continuait cependant de vibrer dans leurs os.
Comment ont-ils pu bâtir un truc pareil sans disposer d'une technologie avancée ?
Demanda encore Jane.
Ils n'avaient rien de primitif. À entendre des âneries mystiques et pseudo-scientifiques dégoisées par les gens qui gèrent les temples et les parcs à thème là, en bas, tu les vois sans doute comme des versions extraterrestres, des Égyptiens de l'Antiquité ou des Mayas précolombiens. Mais de nombreux indices donnent à penser que les Luriens possèdent bien un haut niveau technologique. On discerne ainsi une forme empreinte de leur part dans le paysage planétaire. Culture à grande échelle, mines, roues, canaux, retenues en barrage, etc. Les dépôts métalliques mesurés dans le sol indiquent que les constructions ultérieures utilisaient l'acier et un matériau composite, une sorte de béton, qui se sont tout simplement érodés au fil des millénaires. Si on se base sur le taux de carbone dans l'atmosphère, il semble qu'il n'ait guère recouru aux énergies fossiles, mais cette conclusion ne fait pas l'unanimité, et l'industrialisation peut exister sans combustible fossile.
Comment se fait-il que vous n'ayez pas découvert de machines ni d'objets plus modernes ?
L'archéologie d'ici diffère de celle qu'on pratique sur Terre. Non seulement les Luriens n'étaient pas humains, mais l'échelle temporelle n'a rien à voir. L'intervalle d'un million d'années dépasse de loin les simples millénaires que les archéologues terriens qui étudient les cultures complexes affrontent. La conservation des objets en souffre. Ceux que tu tiens pour modernes sont en fait les moins susceptibles de résister au passage du temps. L'acier rouille, le ciment s'érode, le plastique pourrit ou il se désagrège sous l'action des rayons ultraviolets. Mais les structures en pierre et en céramique ou en matériaux tout aussi solides dureront une éternité sous les bonnes conditions climatiques. Si tous les humains quitter la Terre demain, un explorateur extraterrestre qui arriverait dans un million d'années n'y trouverait peut-être plus que les vestiges de la Grande Pyramide pour témoigner de nos réalisations.
Donc ces ruines dateraient des premiers Luriens et non pas de leurs descendants plus développés ?
Freddy secoua la tête. On n'en sait rien. L'ingénierie impliquée dans la construction de ces tours en spirale est très avancée. La pierre paraît également avoir subi une sorte de vitrification industrielle qui, en la renforçant contre les infiltrations, a ralenti l'érosion.
Difficile d'imaginer que les Luriens plus arriérés disposaient de tels procédés. Et le fait que nous, les humains, avons plus ou moins cessé de bâtir avec de la pierre ne signifie en rien qu'une culture étrangère telle que celle-ci suivrait le même chemin.
Jane s'efforça de se représenter une société industrialisée, édifiant dans le désert de gigantesques monuments de pierre. Des structures colossales, inhabitables, dont le seul usage semblait être de chanter sous l'action du vent. Elle avait du mal à l'envisager. Il s'agit donc d'une culture étrangère.
Alors pourquoi construire ces tours en spirale ? En quoi croyaient les Luriens ?
Freddy sourit avec nostalgie.
On n'en sait rien non plus. Il subsiste trop peu de traces de leur civilisation. Les ères glaciaires, les tremblements de terre et une érosion massive ont réduit la plupart de leurs œuvres en poussière. Seules de rares structures en pierre ont survécu par hasard dans des zones stables sur le plan géologique comme ces ruines. Quant à ce qu'ils en pensaient et croyaient, on ne possède que les fragments de la saga de Lura. Ils ont dû produire des iota octets de littérature, d'art et de musique en leur temps, mais il ne nous reste que leur voix, que leur koan et la mélodie incessante des vents.
Arrivés au sommet de la Grande Tour, ils passèrent un bon moment à contempler le panorama alentour, le calme immémorial des ruines à leurs pieds et la frénésie d'activité insouciante de Xeph au loin. À l'horizon, très au-delà de la colonie, se dressait le mont Kij, avec en son sommet d'un blanc neigeux et son châle vert bois. Freddy était d'humeur songeuse.
Je comprends plus ou moins ce que devaient ressentir les Luriens qui observaient leur monde depuis cet endroit, je crois.
Et il cita la saga de Lura.
Que vous labouriez les champs, sculptiez la pierre, serviez un supérieur, recherchiez le plaisir, expédiez des fruits sur de lointains marchés ou contiez des histoires, le fardeau de la vie pèsera toujours sur vous sans relâche.
Tu t'abandonnes au romantisme ?
Dit Jane. Il hocha la tête.
On ignore combien de temps ces ruines vont encore résister. Le climat de Lura devient plus humide, plus tempéré. Il y a 100 ans, les premiers colons ont apporté de la terre, des graines, des animaux qui se sont adaptés au sol en jachère. Chaque année, les déserts où on a découvert les dernières ruines luriennes reculent face à l'avancée de la végétation terrienne. Il ne pleuvait jamais ici. L'an dernier, Xeph a même connu ses premières neiges. Le paysage finira par se changer en jungle. Ces tours ont 1 million d'années et elles ne survivront peut-être pas 1 millénaire aux assauts de la vie terrienne.
Au début de leur relation, Freddy lui avait raconté une anecdote.
À 7 ans, j'ai joué à l'archéologue. J'ai emprunté l'un des vases bleus et blancs de ma mère, que j'ai cassé en 1000 morceaux, que j'ai enterré dans le jardin. Le lendemain, je suis allé les déterrer et j'ai essayé de le reconstituer. Comme je n'ai jamais réussi à ajuster toutes les pièces, j'ai fini par les coller sur un contreplaqué en une mosaïque qui formait l'image d'un vol d'oiseau au-dessus de l'océan.
Jane sourit.
J'espère que ses talents d'archéologue se sont améliorés entre-temps.
C'est difficile de recréer le passé. Parfois, il me semble qu'on n'arrivera jamais à trouver un sens aux indices, et j'en viens à penser que l'archéologie consiste à ajuster les pierres de telle sorte qu'elles racontent une histoire. Pour moi, la mosaïque racontait une histoire plus marrante que le vase, même si ma mère était d'un tout autre avis.
L'hiver gagnait l'hémisphère nord de Lura. À Xeph, les températures dégringolaient. Il faisait désormais trop froid pour le travail de terrain. L'expédition regagna la colonie afin d'y passer la mauvaise saison, avec comme perspective de regagner le camp de fouilles au printemps. Le professeur Clovis décida d'organiser un cocktail pour les membres de l'expédition, leurs familles et leurs amis. Jane se faisait une joie de rencontrer le savant légendaire. Le grand professeur s'avéra un frêle vieillard de 80 ans, alerte et fringant malgré ses membres grêles et son dos voûté, à la voix d'une force surprenante qui charma ses invités par son autodérision facile et son esprit suranné. Freddy le présenta à Jane, qui constata en le saluant que sa poignée de main restait ferme.
« Ne vous en faites pas !»
lui dit le professeur Clovis.
J'ai tenu votre ami à l'écart des équipes de fouilles comprenant de jolies étudiantes. Il se focalise sur son travail.
Freddy rougit et Jane éclata de rire.
Professeur Clovis, permettez-moi de vous interroger sur un sujet qui m'a toujours intrigué,
dit-elle.
Comment avez-vous pu entamer la traduction de la saga de Lura il y a tant d'années, puisque Lura nous est complètement étrangère? Il n'existait aucune pierre de Rosette.
Il hocha la tête, l'air admiratif.
Vous avez les instincts qui conviennent à une archéologue. Freddy, elle devrait peut-être vous remplacer sur le chantier. Ah, Jane est plus intelligente que moi, sans conteste. Je ne sais même pas remplir ma propre déclaration d'impôt.
Le professeur Clovis s'assit, indiquant du geste à Jane et Freddy de l'imiter.
Au cours de la première expédition, on a trouvé peu de traces des textes luriens. Ils écrivaient sans doute sur des matériaux organiques, les équivalents du papier, du papyrus, du parchemin, du rouleau de bambou, qui n'ont pas survécu. Des inscriptions gravées, voilà ce qu'on disposait. Comme les échantillons collectés aux quatre coins de Lura paraissaient tous utiliser les mêmes caractères, ces gens, selon toute vraisemblance, devaient être très avancés. Pour qu'une langue universelle surgisse, il faut que l'espèce possède la technologie de la guerre globale et du voyage intercontinental. Comment la traduire ? On ignorait tout de sa structure, de sa phonologie, de sa syntaxe et de sa sémantique. Allait même savoir si leurs modèles mentaux s'approchaient assez des nôtres pour permettre de les comprendre. Et s'ils appréhendaient le monde d'une toute autre façon que nous, c'est une salle, découverte par hasard, qui nous a fourni la solution. Quand on a eu fini le site 201, 30 km à l'est d'ici, on l'a inspecté une dernière fois par tomographie pour voir si l'on n'avait rien manqué. Il nous semblait avoir atteint la pierre partout, mais le scanner a révélé une pièce latérale qui nous avait échappé. Les éboulis et le sable déplacés par le vent l'avaient scellée. Elle restait inviolée depuis un million d'années. Quand on a fini par la percer, je suis descendu. À l'âge de Freddy, j'étais plutôt agile. Dans une obscurité totale, à part le cône lumineux de l'ouverture d'accès qu'on avait pratiqué, j'ai dardé le pinceau de ma torche dans tous les sens et constaté que je me trouvais dans un lieu grand comme une salle de cinéma, avec des murs lisses, aveugles, recouverts d'images légendées. Vous avez dû en voir des reproductions dans des livres, même sans en connaître la signification. Sculptées en bas-relief, elles confirmaient que les systèmes visuels des Luriens ressemblaient suffisamment aux nôtres pour qu'ils reproduisent le monde physique par des projections en deux dimensions. Elles brillaient par leur simplicité, chacune dépeignant un objet, voire un groupe d'objets, et surmontée d'une très brève inscription. On ne savait trop comment interpréter ces découvertes. S'agissait-elle d'une sorte de bande dessinée, d'une fresque narrative, d'une iconographie comparable aux vitraux des cathédrales chrétiennes, d'un musée? Les textes expliquaient-ils et commentaient-ils les dessins, ou se limitaient-ils à des titres et ne possédaient-ils un lointain rapport avec les images?
Quoique captivée par le récit, Jane ne put s'empêcher d'interrompre le professeur Clovis.
Puisque la pièce était dépourvue de fenêtres et donc d'éclairage, elle devait être dans les ténèbres la plupart du temps, même avant de se retrouver enfouie. Cela évoque un lieu de culte, de mystère sacré, non ?
Le regard de son interlocuteur pétillait.
Ah, même vous qui fondez vos spéculations sur les hypothèses terriennes, votre théorie tient la route. Étant donné les faits dont vous disposez, vous êtes bien certaine que je ne pourrais pas vous convaincre de changer de métier ?
Freddy, ravi de l'intérêt qu'elle montrait pour son travail, pressa la main de Jane.
Ce que vous ignorez,
poursuivit le professeur Clovis,
c'est que ces gens-là voyaient sans doute dans une gamme différente du spectre électromagnétique, dans l'infrarouge, et même dans ce que vous et moi considérons comme la chaleur. Les pièces sans fenêtres abondaient dans les ruines d'ici, sans doute pour conserver la chaleur et s'isoler des aléas du climat. Pour s'éclairer, les Luriens utilisaient de la chaleur artificielle, venue d'ailleurs par des tuyaux. Disons que leurs radiateurs leur servaient aussi bien de lampe que de chauffage. Dans la dite salle, des conduits amenaient l'eau derrière les images qui paraissaient donc rétroéclairées aux yeux des Luriens, très nettes, très vives. On a également trouvé divers objets, des récipients en céramique et en verre, sans doute de la nourriture et de la boisson, et des meubles en matériaux organiques, analogues au bois et au cuir. L'air sec les avait préservés au fil des ans, mais ils sont tombés en poussière sitôt qu'on a admis l'air extérieur. Par chance, la tomographie effectuée au préalable nous a permis d'en conserver les formes et les structures. Ils nous ont par ailleurs fourni un indice crucial sur la pièce et les images. Ces récipients et ces meubles étaient de taille réduite, bien trop petite pour convenir à l'anatomie des Luriens, telle qu'on la connaissait. Selon vous, sur quoi était-on tombé ?
Jane prit une profonde inspiration. Elle se représenta le jour où ce monde avait péri tout d'un coup sous l'impact des radiations cosmiques. Elle imagina les grands êtres graciles pris de court par la soudaineté de la catastrophe, songeant dans leur dernier instant à ce que leur vie avait de plus précieux, et une phrase de la saga de Lura s'imposa à elle. Le fardeau des pauvres se voit diminuer pour chaque enfant qui naît.
« C'était une école !»
dit-elle.
« Vous avez trouvé le lieu où ils instruisaient les enfants ?»
Le professeur Clovis hocha la tête.
« Ces images, c'était leur premier livre, leur abécédaire. Elles apprenaient la lecture aux petits Luriens. » Et toutes ces années plus tard, elles nous l'ont enseigné à leur tour.
Après la réception, ils gagnèrent le petit appartement qu'elle avait loué. Freddy allait y habiter avec elle durant les 2 mois à venir. C'était la première fois qu'ils vivaient ensemble pour de bon, et cette perspective les inquiétait un peu tous les deux. Assis, côte à côte, Il buvait du vin et regardait de gros flocons de neige heurter la vitre, y adhérer, puis y fondre sous l'effet de la chaleur qui régnait dans la pièce de l'autre côté de la fenêtre.
« Alors, raconte, vous avez fait des grandes découvertes ces derniers mois ?»
Il l'attira contre lui.
« En effet, oui, une, mais on doit la garder secrète. Motus, d'accord ?»
Du geste, Jane indiqua qu'elle garderait la bouche cousue.
« On a trouvé une nouvelle série de plaques de la saga de Lura. »«
Ah, où ça ?»«
Près de là où on a trouvé la première série. Toutes les fouilles étaient finies là-bas, normalement. Mais c'est un lieu célèbre et important. Voilà pourquoi j'y suis allé. Pour rire, j'ai prélevé un échantillon de sol qui s'est révélé contenir de fortes teneurs en platine. »
Il but une gorgée de vin et sourit de l'impatience que Jane ne parvenait pas à masquer.
« Ça m'a paru bizarre, car le platine est vraiment inerte et j'ai procédé à un nouvel examen tomographique du site. » Les machines qu'on utilise de nos jours ont une résolution beaucoup plus fine. Elles voient des détails qui échappent aux engins de la première expédition. Et j'ai découvert des cavités peu profondes, en dessous des fouilles les plus basses effectuées par le professeur Clovis. Des cavités qui avaient la forme des plaques.
Comment est-ce possible ?
Les Luriens avaient employé un procédé de gravure chimique pour fabriquer leurs plaques d'impression. Je parie sur un mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique, la seule substance capable de dissoudre le platine en gros. Il y en avait sans doute une réserve dans le coin. Après la Nova, une fois les plaques enfouies, les fuites d'acide ont dissous celles du bas, mais épargné celles du haut, que le professeur Clovis a trouvées. Seulement, les plaques du bas n'avaient pas entièrement disparu. L'acide avait emporté le platine, mais les plaques elles-mêmes avaient laissé leur empreinte, ces cavités. On a mis au point un moyen d'y injecter une solution de plastique et de déclencher la polymérisation. Quand on a extrait le résultat, on a obtenu des répliques en plastique des plaques perdues, aussi nettes que les originaux en platine.
Mais c'est génial !
Merci, ton petit ami a parfois son utilité.
Et ces plaques révèlent de nouvelles perles de sagesse ?
Aucune, non. Des tableaux, des listes de nombres, des proverbes, des récits étranges, ce genre de choses.
Des tableaux, des listes de nombres.
Il y en avait sur les vieilles aussi. Sur Terre, il arrive fréquemment que les poèmes épiques et autres récits oraux incluent des répétitions de nombres en guise de catalogue. Que la saga de Lura en comporte aussi n'a rien d'étonnant. Mais on a exclu ces listes des traductions vulgarisées. Trop barbantes.
Je peux les voir, ces nouvelles strophes ?
Freddy lui passa une liasse.
Les traductions sont de moi. Le professeur Clovis ne les a pas encore vérifiées.
Elle feuilleta les papiers.
Le fardeau est réduit pour ceux qui sacrifiaient beaucoup à cette tâche. Une grande, non inconnue, une machine, peut-être une arme, accélère la réussite. Le premier hiver, l'individu A acheta une arme inconnue, conçue pour 10 hivers à l'individu B et perdue 10 000. Ce premier hiver, l'individu A gagna 2 000 et un ajout, point d'interrogation. Le deuxième hiver, l'individu A gagna 1 600 et... un ajout. Le troisième hiver, l'individu A gagna 9200, et ainsi sera-t-il jusqu'à la fin, selon l'autorité. Ah, je vois ce que tu voulais dire sur les nombres barbants. Je parie que ce passage n'apparaît pas dans l'édition grand public. Pourquoi tous ces termes entrecrochés ?
Il se substitue au personnage de la saga et au nom que je me demande comment traduire. Dans la version finale, l'individu A deviendra le héros Arunsun et l'individu B son ami Beerus. C'est le professeur Clovis qui a trouvé ces noms pour rendre le texte plus lisible. Puisqu'on ne sait rien de la phonétique lurienne, il les a inventés pour qu'on les utilise par simple convention. Avant la publication, il choisira une hypothèse crédible pour arme inconnue, une épée peut-être, et il lissera le style.
J'ignorais que la saga de Lura incluait autant d'ajouts et d'enjolivements.
Admit Jane, déconcertée. Freddy haussa les épaules.
Il n'y a pas moyen de faire autrement. Toute traduction est infidèle, on ne dispose que d'une ébauche de contexte. Tu te souviens des images dont le professeur Clovis t'a parlé ? Elles nous ont bien aidés, mais elles laissent place à toutes sortes d'ambiguïtés. Si on y voit un dessin d'animal en dessous d'un mot, comment peux-tu savoir si ce mot est le nom de son espèce, celui de cet animal spécifique, du poil blanc, court, le chiffre 1, l'animalité, l'immobilité, ou n'importe quoi d'autre ? Il faut deviner et s'assurer ensuite que le contexte convient.
Certains aspects de la traduction gênaient Jane, au point que les nombres lui tournaient dans le crâne. Elle les étudia de nouveau.
« Freddy, je comprends ces nombres. Ton texte évoque une dévalorisation, la méthode de l'amortissement dégressif à taux double. »«
La quoi ?»«
Une méthode comptable d'amortissement accéléré. Une minute, laisse-moi vérifier. »
Elle prit l'exemplaire de la saga de Lura qu'il avait rangé sur une étagère et la feuilleta.
« Le fardeau des pauvres se voit diminuer pour chaque enfant qui naît. Oh » Cette phrase parle d'un crédit d'impôt par enfant auquel s'applique un plafond de revenus. « Le fardeau vous incombe toujours. » Et celle-ci établit que chaque revenu, indépendamment de son origine, est soumis à l'impôt. On retrouve ce principe dans tous les codes. Beerus doit se tenir à tes côtés, ou il ne saurait y avoir de duel. Et celle-là exige l'unanimité des partenaires dans la remise en cause de l'évaluation fiscale du partenariat. Arunsun se prépara au combat. Je crois qu'il s'agit du résumé de la procédure d'appel pour un contribuable qui souhaite contester l'estimation.
Les yeux écarquillés, Jane dévisagea son compagnon.
La saga de Lura n'a rien d'une épopée mythique en vers. C'est le code des impôts luriens.
Freddy revient abattu de sa rencontre avec le professeur Clovis.
D'après lui, tu as une théorie très intéressante, mais ton métier te donne des a priori. Un menuisier croit qu'on peut tout fabriquer avec du bois, et un avocat que tous les gens veulent s'intenter des procès. C'est la nature humaine, tu n'es pas archéologue de profession.
Mais tu sais que j'ai raison.
Il reste à quoi ?
Je vois le genre,
dit Jane.
Clovis refuse d'admettre son erreur et de ruiner sa réputation qui se base sur ses idioties que le code fiscal serait un poème épique.
Tu es injuste !
Freddy baissa le ton.
Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Le grand public suit de près les fouilles luriennes. Nos subventions dépendent de ses intérêts. Et si on lit la saga de Lura comme un code des impôts, elle perdrait aussitôt de son attrait pour beaucoup, sans parler de tout ce que les organisations religieuses vont penser de...
Tu les considères comme des escrocs.
On ne sait pas si tu as raison.
Il cria presque.
Ce n'est qu'une théorie, et il y en a toutes sortes de farfelus sur les luriens. L'interprétation de Clovis est aussi logique que la tienne, et la sienne fait une meilleure histoire.
Le code des impôts est une bonne histoire.
Freddy se contenta de la dévisager et Jane s'avisa qu'elle n'allait pas l'emporter. Monsieur Maurice lui demanda de superviser les rénovations du bâtiment de la DGFX. L'immeuble, âgé de 50 ans, se délitait et sa façade se craquelait. Le conseil de Xef avait enfin accepté d'allouer un budget aux réparations. Au lieu de citations inspirantes sur les bénéfices d'un fisc équitable, Jane décida de présenter des extraits de la saga de Lura dans l'entrée de la DGFX. Elle expliqua à Monsieur Maurice que leur administration apparaîtrait ainsi plus proche des habitants de Xef, obsédés qu'ils étaient par la saga.
Lorsque les contribuables viendront ici, ces passages édifiants les mettront dans un état d'esprit adéquat.
Il hocha la tête. Jane avait informé Freddy de son projet.
Un jour, quand ils fouilleront les ruines de la DGFX, les archéologues du futur auront enfin le bon contexte pour interpréter la saga de Lura.
Il soupira, sans rien dire, mais en gage de réconciliation, il l'aida à choisir quelques passages. Tandis qu'elle regardait les peintres inscrire les citations sur les murs de l'entrée, elle songea aux employés du fisc lurien, rédigeant, un million d'années plus tôt, les dispositions d'un volume qui concernait le quotidien de tous les compatriotes. Imaginait-il alors que leur règlement serait lu plus tard par une espèce étrangère? Que des esprits étrangers tâcheraient d'y trouver un sens profond? Que penseraient ces fonctionnaires? Des temples criards, des pèlerins venus sur Lura, chercher la sagesse dans un code des impôts pesé avec soin.
« Moi, je vous comprends »,
dit Jane à la cantonade.
Fin de ce 5e épisode du Printemps des Poètes confinés. À retrouver en podcast sur notre site www.radiocampustour.com. Je rappelle que vous pouvez toujours envoyer par mail à melissa@radiocampustour.com vos contributions pour ce printemps des poètes confinés. Je vous souhaite à tous la meilleure journée confinée possible et je vous souhaite en bonne santé. À demain.